Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, plusieurs doutent des convictions souverainistes de Québec solidaire. La moitié de ses électeurs disent, sondage après sondage, que ce n'est pas la perspective d'un pays souverain qui les attire dans le Parti orange. Sans doute pour contrer ce phénomène et ses impressions, un collectif d'élus de Québec solidaire ainsi qu'un militant innu de QS lance aujourd'hui un livre sur le sujet. Ça s'intitule « Ce qui nous lie ». Le député Sol Zanetti est venu nous le présenter. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Et bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. On commence tout de suite avec l'analyse sportive de la période de questions. On n'a pas le choix. Premier sujet de cette analyse de période de questions, la question délicate du jour.
Oui, lorsqu'il arrive un décès et que les partis d'opposition cherchent à faire un lien entre un décès et des décisions gouvernementales, c'est toujours une mince ligne qui est délicate à franchir.
Je me souviens que tu n'avais pas aimé cet automne que Marie Montpetit dise pour les traitements de chimio, je pense, qui avaient été repoussés.
Pour les délais de chirurgie.
Délais de chirurgie, c'est ça, en cancer. Marie Montpetit avait dit, est-ce qu'on les envoie donc à la mort?
Oui, avec M. Dubé, faire en sorte qu'on envoie des gens vers la mort. Alors là, dans ce cas-ci... C'est sûr qu'on a vu des signaux, on a vu des feux jaunes il y a déjà un bon moment. C'est concernant l'urgence de Sainte-Terre en Abitibi. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y en a été question. L'urgence, maintenant, est fermée. De ce que je comprends, c'est que ça ferme à 16 heures.
C'est un CLSC.
Ouais. Et le service d'urgence, donc, n'est plus disponible 24 heures sur 24. On va résumer comme ça. Et là, donc, il y a un monsieur, Richard Genet, qui est décédé et qui... habitait, semble-t-il, à 15 minutes de marche de l'urgence de Sainte-Anne.
J'ai même entendu 10.
Alors, bon.
Pas loin.
Il est passé près de se dire, bon, je vais aller à l'urgence de Sainte-Anne, mais il était plus de 17 heures et donc c'était fermé. Alors, il a pris son mal en patience et durant la nuit, ça allait vraiment pas bien. A téléphoné donc service d'urgence. Malheureusement, l'ambulance était partie vers Val-d'Or. Donc, ça a pris beaucoup de temps. C'est le service de Barraute qui est allé le chercher, à l'amener vers Amos. Et à Amos, malheureusement, donc son décès a été constaté. Et selon la fille de M. Genet, qui a parlé à LCN, elle dit que la personne l'a pris en charge à Amos aurait déclaré que s'il était arrivé avant, il aurait pu être sauvé. Bon, là évidemment, la question, c'est si l'urgence de Sainte-Terre avait été ouverte. Bon, est-ce que son état aurait pu être davantage stabilisé avec l'aide de soins médicaux? Dans les partis d'opposition, Dominique Anglade est celle qui est allée le plus loin ce matin avant la période des questions en disant que François Legault et Christian Dubé les ont nommés, avaient une responsabilité dans le décès parce qu'ils ont pris la décision de fermer l'urgence et qu'il y a eu un tollé.
À Sainte-Terre.
À Sainte-Terre, dans le secteur, les partis d'opposition s'étaient emparés de ce dossier-là. On a demandé qu'il y ait d'autres solutions, mais M. Dubé avait été sur place. Il a maintenu le plan qui avait été créé, là, je dirais, pour faire face au manque de personnel. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est en raison d'un manque de personnel.
Toujours.
Bon, alors...
M. Legault n'était pas content.
M. Legault
était... Qu'on fasse le lien en chambre, là, ouf.
Vraiment pas content. Alors, il a passé son temps à chaque réponse dans les premières questions qui ont été posées par Dominique Anglade à revenir là-dessus en disant, elle fait un lien. Qu'est-ce qu'elle a comme fait pour pouvoir faire ce lien-là? On va écouter ce que ça a donné.
La chef de l'opposition fait un lien entre la vie d'un homme et la fermeture du CLSC de Sainte-Terre. Elle dit ça, là. Quand même chef de parti, là. Quand même une responsabilité, M. le Président. Donc, M. le Président, on va aller chercher les vraies informations, les vrais faits, et le ministre de la Santé, je lui fais confiance pour aller au fond du dossier.
Mais là, depuis, là, Rémi, la situation a pas mal évolué.
Oui, parce que ce que j'ai pas tellement aimé, je comprends que... Bon, on prend leur parole, M. Dubé, lui, a pris la parole de la PDG du CIS de ce secteur-là, qui lui a dit, j'ai vérifié avec un médecin coroner, qui a dit que ce n'était pas lié à la fermeture de l'urgence, ni... au transport, au service de transport ambulancier. Bon, donc,
M. Le coroner disait, pas besoin d'enquêter.
Oui, M. Dubé est arrivé en disant, on nous dit qu'il n'y a pas de lien. Donc là, c'était la ligne et de M. Dubé et de M. Legault. Puis ça, je trouve ça dur à avaler, franchement. Je dis pas
qu'il... Mais après, il disait toujours, on va aller au fond des choses. On va aller chercher d'autres informations.
Et là...
donc, au moins, parce que...
Parce que, donc, le coroner...
Vous ne pouvez pas se borner à ça.
Le coroner aurait dit, sur le coup, qu'il n'y avait pas de lien en même temps. Je vois mal comment il a pu...
Là, il y a la famille qui contredisait. Oui. Puis là, après, le coroner a changé d'idée. Il a dit, oh, effectivement, je vais enquêter.
C'est ça, parce que moi, je me demandais comment il a pu statuer là-dessus en aussi peu de temps. Parce qu'on parle d'un décès d'ennui de mardi à mercredi. Là, on est jeudi matin. Alors, comment... J'ai l'impression que les vérifications... qu'il a fait devait être extrêmement minimal. Alors là, visiblement, avec la pression, le bureau du coroner a changé d'idée et là, il va y avoir une enquête. Alors donc, tu sais, à rebours, je pense que même M. Dubé, M. Legault auraient dû être peut-être encore plus prudents qu'il n'y a pas de lien, là, en disant qu'il n'y a pas de lien. Je comprends qu'il disait que c'est la PDG du CIS qui a dit ça, mais là, d'ailleurs, c'est elle qui se retrouve un peu, je trouve, dans la barre, là, particulièrement.
Puis Dominique Anglade, moi, je pense qu'elle a fait la mise en échec du jour. En rappelant des propos de 2002 de François Legault. Écoutons-la.
Je vais vous citer quelqu'un. S'il y a une chose sur laquelle on s'entend tous aujourd'hui, c'est que la fermeture d'une urgence, c'est inacceptable. C'est inacceptable au Québec d'avoir une urgence qui soit fermée la nuit. L'urgence est un service essentiel pour la population et ces urgences doivent être ouvertes 24 heures par jour, 7 jours par semaine et la population doit être capable de s'attendre à ce que ces services soient donnés. Ça, Monsieur le Président, c'est... Le premier ministre du Québec qui disait ça en 2002. Que s'est-il passé depuis 2002?
En tout cas, c'était des propos très clairs. Puis le premier ministre s'est senti obligé de réagir tout de suite. Il a dit, je me rappelle très bien du moment où j'ai prononcé ces mots-là. C'était un cas en Mauricie. Il y avait eu un décès, effectivement, à cause de la fermeture d'une urgence. Puis il avait dit, moi, à l'époque, là, j'ai réuni en plein été tous les députés pour adopter une loi spéciale. Pour forcer les médecins à garder l'urgence ouverte. Puis après ça, il dit, Monsieur le Président, ici, il n'y a aucun lien démontré. Ouh!
Ouais. Ben là, c'est ça. Il faudra attendre l'enquête du coroner. Donc,
c'est ça, pour conclure ça.
Et
il y a eu toute une stratégie des libéraux.
Oui, puis je voulais signaler donc que André Fortin, Greg Kelly ont posé des questions aussi.
Enrico Ciccone,
parce que là, on est revenu sur les urgences qui sont fermées aussi, donc à Gatineau, à la Chine, à Coaticook. Et il y a eu une question qui a été posée, il n'y a pas eu de réponse, parce qu'on a demandé est-ce qu'il y aura un plan pour la réouverture des urgences, mais M. Legault a dit... Les infirmières dont on a besoin, on les enlève où si on veut ouvrir ça? Donc, c'est comme une roue qui tourne.
Bonne question. Et on a eu droit à quelques primeurs là, pendant cette période de questions?
La révélation du jour, je dirais, c'est le fait qu'il va y avoir de nouvelles primes par-dessus les primes déjà annoncées par le gouvernement.
Un jour, une prime. Ces temps-ci, c'est fou.
Exactement.
Hein?
Pour embaucher du personnel de santé dans les régions éloignées. Alors, Christian Dubé en a parlé au Salon Bleu et dans l'après-midi, tôt, il y a eu un communiqué de presse de publier. Alors, 12 000 $ de plus pour des membres de personnel de la santé qui vont accepter d'aller s'établir soit en Abitibi-Témiscamingue, donc c'est cette région-là, mais aussi la Côte-Nord, la Gaspésie, le nord du Québec, Nunavut, Outaouais et à la Baie-James. Donc là, ça s'ajoute aux 12 à 15 000 $ de primes qui existaient déjà pour la rétention du personnel en santé. Alors, ça peut faire un pactole qui peut monter jusqu'à 30 000 $ pour une première année pour une personne qui va s'installer en région. Alors, c'est... T'sais, on cherche désespérément, par des moyens financiers, des incitatifs, à trouver du personnel. Bonne chance, parce que même dans le cas du premier programme, si on veut, de primes qui a été annoncé, on voit que ça, ça augmente tranquillement, mais c'est un peu au compte-gouttes, c'est un peu lent.
Tous les employeurs, ces temps-ci, offrent des primes. Tu te souviens du McDonald's des Laurentides qui offrait 1 000 $ comme prime pour venir travailler?
Ah oui, c'est
hallucinant. C'est fou, là.
Oui, on a fait un dossier récemment sur la pénurie de main-d'œuvre. Il y avait une entreprise qui offrait 6 000 $ par année pour ceux qui se présentent à tous les jours à leur quart de travail et qui sont... à l'heure. Alors imagine, c'est pas rien.
Ça donne des idées, hein, Rémi, pour nous autres, comme journalistes, pour faire l'analyse sportive de la période des questions. C'est pas vrai, c'est des blagues. Le mystère du jour, Rémi. Le
mystère du jour, c'est encore une fois, il y avait des questions à l'endroit de Pierre Fitzgibbon et les fameuses 10 entreprises qui ont reçu de l'aide financière, qui ont reçu 60 millions alors qu'elles répondaient pas aux critères des programmes d'aide. Et Guetta Barrette a soulevé que dans le rapport de la vérificatrice générale, on indique que puisque ces entreprises-là ne respectaient pas les critères, ben ça prenait comme une entente, là, t'sais, il fallait modifier pas le programme, mais les conditions pour faire en sorte qu'elles reçoivent de l'aide. Et donc, Gaétan Barrette souligne qu'il est question d'un guide de gestion interne. Alors donc, il dit qui a rédigé le guide de gestion interne? On va écouter ce que ça donne, parce que la réponse de M. Fitzgibbon était plutôt étrange.
Les règles ont été changées dans 10 cas en appliquant un guide de gestion interne. Qui est l'auteur du guide de gestion interne? Et le ministre peut-il déposer le guide? Monsieur Transparence peut-il aujourd'hui être transparent?
Le guide en question est dans la tête de tous les exécutifs d'Investissement Québec et je les remercie formellement aujourd'hui pour avoir été si efficaces pour utiliser leur jugement.
Alors, c'est très dur à imaginer qu'il y ait un guide formel. Un guide, ça sous-entend, là, justement, des critères, des points.
Il dit c'est dans leur tête.
Ouais. Alors, donc...
Ça rappelle une chanson célèbre, Rémi.
Oui, on va se laisser là-dessus.
Oui. À demain.
À demain.